Avant de vous exposer ce que j'ai préparé, je vous invite à lire quelques versets de l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 13. Évangile selon Matthieu, chapitre 13. Vous savez que la première partie de ce chapitre est consacrée à la parabole du semeur et des divers terrains. Je lis à partir du verset 10. Les disciples, s'approchant, dirent à Jésus: Pourquoi leur parles-tu en parabole? C'est que, répondit-il, à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, tandis qu'à ces gens-là, cela n'est pas donné. Le texte parallèle dans l'évangile de Marc dit: Pour ceux du dehors, tout se passe en parabole. Car à celui qui a, l'on donnera, et il aura du surplus, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. C'est pour cela que je leur parle en parabole, parce qu'ils voient sans voir, et entendent sans entendre ni comprendre. Et puis encore au verset 16: Quant à vous, heureux vos yeux parce qu'ils voient, heureuses vos oreilles parce qu'elles entendent. En vérité, je vous le dis, bien des prophètes et des justes ont souhaité voir ce que vous voyez et n'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Jusque-là, notre lecture. Nul n'osera contester que la langue française est de toutes la plus belle. Mais d'autres ont aussi leurs ressources. Nous n'avons en français qu'un seul mot pour histoire, alors que l'allemand ou l'anglais en ont deux. Pendant plusieurs décennies, les théologiens allemands ont tyrannisé tous leurs collègues en leur imposant une distinction qu'ils avaient forgée entre leurs deux termes pour l'histoire, History et Geschichte. Ils ne l'apprenaient pas de la même façon. La manière dont Rudolf Bultmann la mettait en œuvre n'était pas du tout la même que celle de Karl Barth. Mais n'importe, si vous osiez la laisser de côté, si vous paraissiez n'y attacher aucune importance, vous vous sentiez tout de suite écrasé de leur mépris. Aujourd'hui, cette distinction joue un beaucoup moindre rôle. Mais une autre est en train de la remplacer. Elle est très en vogue dans le petit monde des théologiens. C'est la distinction entre les deux mots anglais, story et history. En fait, ces deux mots ont la même racine. Étymologiquement, ils procèdent tous deux de historia, mais ils se sont distingués dans l'évolution linguistique. Story, c'est l'histoire au sens de récit. Les belles histoires qu'on raconte. Et history, c'est l'histoire au sens des choses réellement arrivées. La Bible nous a surtout de plus en plus ressorti au genre story. Elle nous raconte des histoires, de belles histoires. Oui, bien sûr, ne donnez pas la connotation péjorative qu'on donne parfois à cette expression, des histoires en français. Non, de belles histoires, des histoires dignes de la plus vive attention, de la plus profonde méditation. Mais simplement, des histoires, et veut ainsi être lu. Le rapport historique, history, aux faits objectifs, ne l'intéresse pas au premier chef. Nous assurons communément. Cette opinion, relativement nouvelle, sert parfois d'arme contre les évangéliques. Généralement, quand on les attaque, on les appelle fondamentalistes. On déclare que pour qui a décerné cette différence, que l'écriture en fait est plutôt story que history, alors toute l'apologétique élaboré à si grands frais par les évangéliques au cours des dernières années, est périmé. En fait, il s'agit d'un combat contre des opinions qui n'ont plus cours. Chercher à défendre la réalité dans le temps et l'espace des choses qui nous sont relatées par les textes bibliques, mais c'est passer entièrement à côté de la cible. Car la Bible ne s'y intéresse pas. Voilà ce que nous assurent certains. Le plus féroce de nos censeurs, le professeur d'Oxford écossais, James Barr, brandit cette distinction entre story des histoires et puis l'histoire, sans doute en pensant que nous nous fourvoyons totalement si le manque d'attestation des faits qui sont évoqués dans l'Écriture à quoi que ce soit de gênant. Tantôt, au contraire, des hommes qui sont plus bienveillants, qui désirent pratiquer l'ouverture, non plus seulement du côté de l'Église romaine, mais aussi du côté de l'aile évangélique du protestantisme, évoquent cette distinction entre story et history, entre les histoires belles et profondes, et puis l'histoire, pour essayer de nous attirer, de nous inviter au rapprochement. La théologie de la Bible comme récit, on dit parfois théologie narrative, le récit c'est une narration, la théologie de la Bible comme récit, ou théologie narrative, ou narrativiste, nous disent certains, en fait, fait droit à la plupart des revendications des évangéliques. Les évangéliques pourraient très bien accepter ce type de théologie. Il y a là une convergence précieuse. L'examen des propositions que l'on nous fait sous ce titre général de théologie narrative ou narrativiste, la Bible comme recueil de belles histoires, me paraît d'autant plus urgent qu'un livre brillant la présente non plus seulement aux théologiens, mais au grand public cultivé de notre pays, de nos pays francophones. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du professeur Northrop Frye, F-R-Y-E, mais il est fameux au moins dans le monde littéraire. C'est un très grand spécialiste de Milton, de William Blake, parmi les génies de l'histoire littéraire anglaise. Il est aussi très au fait de la littérature comparée, ancienne et moderne. Je me rappelle, il y a déjà maintenant un bon nombre d'années, d'avoir vu une entière page centrale du Monde consacrée aux thèses de ce Northrop Frye. Il enseigne depuis bien longtemps déjà, il est pratiquement au moment de la retraite maintenant, à l'Université de Toronto. Or, ce Northrop Frye a discerné ce que beaucoup ignorent, surtout dans notre pays, l'importance culturelle de la Bible. Il s'est rendu compte que pour décoder les grands chefs-d'œuvre qui constituent le patrimoine culturel de l'Occident, il faut connaître la Bible, sinon on se fourvoie. On ne peut pas comprendre Milton, on ne peut pas comprendre Blake, ce sont ces deux grands auteurs. Pour des Français, nous pourrions dire, ceux qui se mettent à lire Pascal sans connaître la Bible n'y comprennent rien. Il s'est rendu compte de cela. Du coup, il a décidé de dispenser à ses élèves régulièrement un cours de survol biblique, de présentation de la Bible. Il en a fait finalement un livre qui fourmille d'idées piquantes, de suggestions originales. Et ce livre vient d'être traduit en français, publié dans une collection prestigieuse aux éditions du Seuil, avec une introduction par l'un des intellectuels les plus en vue du monde parisien, Tvetan Todorov. C'est dire que ce livre va exercer une influence sur le grand public, le public des professeurs de lettres, au moins des enseignants du secondaire, ou bien sûr du niveau universitaire, et d'autres encore dans notre pays. Or, ce livre est dans une large mesure un plaidoyer en faveur de cette nouvelle façon de considérer la Bible comme recueil d'histoire, mais non pas comme de l'histoire. Je me référerai spécialement à cet ouvrage pour vous présenter les propositions nouvelles. En même temps, je ne me cantonnerai pas à cet ouvrage de Northrop Frye. Comment commencent les promoteurs de la nouvelle conception? En fait, je ne suis pas sûr qu'elle soit tellement nouvelle. Ils posent qu'on doit d'abord reconnaître la vraie nature de l'ensemble biblique, la manière dont il fonctionne pour ceux qui s'en font une nourriture spirituelle ou intellectuelle, à condition au moins que des a priori dogmatiques ne déforment pas la réception. Comment la Bible se présente-t-elle? Comment la Bible est-elle effectivement reçue? Comme une œuvre d'art, comme un ensemble littéraire. C'est un recueil de morceaux de la grande littérature et elle contient principalement des récits. Les textes qui ne sont pas des récits, comme les livres de sagesse ou les épîtres, se rattachant quand même aux récits. En fait, on peut dire que c'est un grand récit de la Genèse à l'Apocalypse. Northrop Frye remarque avec, je crois, beaucoup de finesse, que le schéma fondamental en est le U. C'est une forme en U que le schéma essentiel de l'ensemble de la Bible et de certains livres en particulier, comme celui de Job. On commence en haut, situation de bonheur, d'harmonie, puis les catastrophes font tomber au fond du gouffre, c'est la descente du premier jambage du I, et puis finalement tout se rétablit et on remonte, deuxième branche. C'est, dit-il, le schéma classique de la comédie. C'est comme ça que sont construites traditionnellement toutes les comédies. Ce qui fait que la Bible dans son entier est comme une divine comédie. Idée qui vous surprend peut-être, mais qui n'est pas sans quelque intérêt. C'est un récit qui, à l'opposé des récits tragiques qui se terminent de manière désastreuse, nous présente un grand rétablissement après bien des péripéties qui ont tenu le lecteur en haleine, qui l'ont désolé pour un temps, mais de telle sorte que tout finalement finit bien. Il compare l'œuvre biblique à l'œuvre d'Homère, par exemple, l'Iliade ou l'Odyssée, ou bien encore à la saga d'Éric le Rouge. Il s'agit de ces œuvres puissantes qui structurent toute une culture. Et pour l'étudier, il faut l'apprendre comme telle. Il faut se placer d'abord au point de vue esthétique. Il ne faut pas la lire en se préoccupant essentiellement de confirmation chez des historiens extra-bibliques, de vestiges archéologiques qui pourraient appuyer les dires que l'on trouve dans les textes. Non, non, c'est avec la sensibilité qu'on met à lire un poème qu'il faut lire la Bible. Il faut surtout s'intéresser, c'est ça le principal, au procédé de composition, comme on fait pour les autres chefs-d'œuvre de la littérature mondiale. Alors Frye et les autres penseurs de l'école narrativiste ne nient pas nécessairement qu'il s'agisse d'événements réels, qu'il y ait des éléments d'historicité par-ci, par-là. En fait, concède-t-il, la Bible tisse ensemble des fils d'histoire et des fils de fiction. Ce n'est pas, en général, de la pure fiction, comme la saga d'Éric le Rouge, comme le Cid de Corneille, qui repose sur certains éléments historiques, comme beaucoup de ces grandes œuvres de semi-fiction auxquelles les hommes de notre culture recourent. Mais ce n'est pas ce rapport à l'histoire partielle qui a vraiment de l'intérêt. Peu importe, après tout, l'intérêt de la Bible et sa vérité ne relève pas de la correspondance avec des objets extérieurs. Schliemann, je crois que c'était son nom, a retrouvé la ville de Troie, parce qu'il a cru que l'Iliade donnait à cet égard des renseignements fiables historiquement. De son temps, au XIXe siècle, on pensait que c'était pure fiction. Il s'est dit, non, Homère, dans l'Iliade, a dû parler d'une ville qui a vraiment existé. Il avait amassé une fortune dans le commerce, il est parti faire des fouilles, il l'a retrouvé. Mais finalement, qu'est-ce que ça change? Les faits sur nous, sur les lecteurs d'aujourd'hui, comme sur les lecteurs de toutes les générations de l'Iliade, est pratiquement indépendant de cette confirmation historique de la réalité de l'existence de la ville de Troie. Même avec la Bible, l'intérêt de la Bible et sa vérité lui sont plutôt intérieurs, comme la vérité de la poésie est dans le poème. Un poème qui vous bouleverse, mais ce n'est pas parce qu'il correspond à quelques faits que vous pourriez mettre en regard dans une colonne réalité extérieure, correspondant à la colonne des éléments du poème lui-même. Non, le poème ou un grand roman, ou un drame, ou une comédie, vous saisit par sa capacité à communiquer une présence, à éclairer l'existence, à façonner le monde pour vous. Vous le voyez tout autrement. Voilà ce qui intéresse le lecteur de la Bible. Voilà ce qui correspond, nous dit-on, à sa véritable nature. Je voudrais vous lire une ou deux citations du livre de Frey à ce propos, pour vous montrer que je ne déforme pas, en tout cas pas trop gravement, sa pensée. Il souligne avec beaucoup d'honnêteté que la vérité de la Bible n'est pas référentielle. Ce qui veut dire chez lui que la vérité de la Bible ne se réfère pas à un objet qui lui serait extérieur, ou qu'elle n'est pas centrifuge, mais centripète. Voilà une expression qu'il emploie. Et dans une autre citation, voici ce qu'il écrit, c'est à la page 200 de son ouvrage qui s'intitule, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, Le Grand Code. La Bible est le grand code de la littérature mondiale, de notre culture en tout cas. La Bible écarte délibérément d'elle-même le sens du référentiel. Ne t'intéresse pas à ce qui est référence au-delà d'elle-même. Elle n'est pas un livre désignant une présence historique en dehors de lui, mais un livre qui s'identifie à cette présence. À la fin, le lecteur lui aussi est invité à s'identifier au livre. Un livre qui contient tout son sens en lui-même et duquel il n'y a pas à sortir pour chercher une présence qui lui serait extérieure, des faits qui pourraient être mis à côté avec correspondance. La notion de vérité de correspondance correspond à l'histoire et se trouve dans le genre historique, mais ne correspond pas à la story ou à la poésie. Je cite cette fois la page 115. Il dit « L'histoire, en tant qu'imitation verbale primaire d'action, produit des affirmations particulières. » Ceci est arrivé là, à ce moment-là, c'est particulier. « Et est jugé par la vérité de correspondance. » Nous avons une vérité historique s'il y a correspondance avec des faits extérieurs. La poésie, en tant qu'imitation verbale secondaire de l'action, produit des affirmations universelles et n'est pas soumise à la vérité, vérité entre guillemets, vérité au sens de correspondance. Et la Bible appartient foncièrement à ce genre de la poésie. Plusieurs influences se sont conjuguées pour assurer la vogue de la nouvelle façon d'aborder les choses que je suis en train de décrire. D'abord, il y a un certain prolongement de l'étude des genres littéraires. C'est déjà depuis maintenant une quarantaine d'années que les genres littéraires ont fait l'objet d'une attention très, très soutenue de la part des spécialistes. L'encyclique de Pie XII sur les études bibliques paru vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il avait encouragé spécialement les savants catholiques, et à coup sûr, c'est une étude qu'il fallait mener. L'étude des procédés de composition, l'étude des différentes catégories littéraires, il y a des poèmes, il y a des paraboles, il y a des chroniques royales, il y a des éléments dramatiques, donc il faut s'y retrouver, il faut savoir quel est le genre de langage, quelles sont les modalités d'expression qui correspondent à ces divers genres littéraires. Je pense qu'on peut dire que c'est comme une amplification de ce courant d'études que l'on voit dans la nouvelle façon d'aborder la Bible que je décris. Il y a aussi la philosophie herméneutique, c'est-à-dire relative à l'interprétation du philosophe allemand Hans Georg Gadamer et du philosophe français, protestant français, Paul Ricoeur. Il se distingue sur certains points de la théologie narrative ou narrativiste, mais je pense qu'on peut dire, c'est pour les spécialistes, je ne peux pas développer maintenant, que leur influence a joué dans ce sens. La Bible n'est pas vraiment de l'histoire, en tout cas, ce n'est pas son propos principal, si elle l'est, c'est accidentellement et par occasion. Mais foncièrement, elle joue le rôle d'un récit capable de structurer le monde du lecteur. Paul Ricoeur n'a d'ailleurs pas fini d'exposer ses vues extrêmement subtiles et raffinées sur le sujet. Il a fait paraître, à ma connaissance, en tout cas seulement les deux premiers tomes de son dernier grand ouvrage, Temps et récits. J'ai essayé de suivre le développement de ce travail. Je ne sais pas où il va aboutir exactement, je préfère n'en pas donner d'autres commentaires. C'est un travail extrêmement riche et fin, mais j'ai quand même quelques raisons de craindre l'écart, au bout du compte, avec les positions que nous devons tenir. Il y a aussi le climat que j'appellerais post-structuraliste. Vous savez que le structuralisme a été la grande mode des années 60, et encore au début des années 70. La mode est un peu retombée, mais reste un climat. Les structuralistes ont mis l'accent sur le texte tel qu'il est et sur les arrangements qui en sont caractéristiques. Arrangements visibles, arrangements moins visibles qu'il faut retrouver par des techniques très précises, enterrage quant aux termes qui reviennent, quant aux divers codes, comme ils disent, géographiques, temporels, etc., que l'on peut retrouver dans le texte. Mais le structuralisme a tout à fait rompu avec l'ancienne façon historico-critique d'étudier les textes. Il prend les textes indépendamment de leur situation dans l'histoire, les étudie pour leur structure formelle. Ce n'est pas le contenu des affirmations qui importe, mais plutôt le mode de l'arrangement et le fonctionnement, parfois quasiment mécanique, des structures que l'on découvre. Le structuralisme a encouragé l'étude de la Bible comme récit. Elle fonctionne comme récit, comme mécanique de narration, si vous voulez. Alors, essayons de nous y repérer, de voir comment les choses se passent. Il y a aussi une nouvelle école qui est souvent associée à celle de la théologie narrative, bien qu'elle soit distincte, c'est l'école canonique. Des gens, en particulier le théologien de l'université de Yale, Brevard Childs, se sont dit non, quand même, on ne peut pas continuer à disperser l'attention théologique comme on le fait avec la méthode historico-critique. Bon, il faut retrouver le sens du canon, du tout biblique. Il faut prendre les textes selon le sens qu'ils prennent dans l'ensemble. Le tout éclaire chacune des parties. Cette nouvelle approche a aussi encouragé la considération de la Bible comme un grand récit. Et il y a, dans cette vogue, à coup sûr, la marque d'une lassitude, d'un déplaisir à l'égard de la vieille façon dont la haute critique traitait les textes. La haute critique continue de se pratiquer. Monsieur Villard le rappelait encore hier soir. la recherche des sources multiples, souvent recherche sur des poussières d'indices que l'on pourrait tout à fait interpréter autrement, elle continue, mais elle a de moins en moins de prestige et d'attrait. On se rend compte quand même que c'est un émiettement des textes, une atomisation de la parole biblique qui ne mène pratiquement à rien. Norton Frye, il va très fort. Il dit la haute critique est devenue en fait une critique de bas étage. Et il va jusqu'à dire que dans cette haute critique, telle qu'elle a été pratiquée couramment, je veux vous donner la formule exacte qu'il emploie, oui. La désintégration du texte est devenue une fin en elle-même. Vous voyez que parfois on trouve des alliés là où on ne les attendait pas. Il y a dans la vogue de cette nouvelle proposition de la théologie narrative, à coup sûr, une sorte de rejet, plus ou moins marqué, de la façon dont la critique négative, dont nous nous sommes tellement pleins, traite les textes. Et, indépendamment même de ce que je viens de dire, je crois que nous devons reconnaître à la proposition nouvelle des attraits. Oui, on ne cisaille plus le texte jusqu'au ridicule, selon des sources supposées. Vous savez que parfois, les critiques de la haute critique allaient jusqu'à trouver 3 ou 4 sources dans un même verset. Ce qui vraiment allait jusqu'aux limites de l'invraisemblable. Il y a des travaux menés aujourd'hui par des gens qui se rattachent un peu à la tendance nouvelle, qui nous enrichissent, qui nous font découvrir des symétries dans les textes, des éléments unificateurs d'ensemble biblique que nous n'avions pas vu, que les théologiens évangéliques n'avaient pas observé jusqu'à présent, et c'est un enrichissement considérable. Je pense par exemple au travail d'un auteur catholique comme Rémi Lac sur le livret de l'Emmanuel, mais c'est remarquable. Une preuve par considération stylistique, par observation des procédés d'Ésaïe, de l'unité de ce recueil. Nous y avions toujours cru à cette unité, mais nous n'avions pas su en discerner les indices tout à fait formels, indiscutables dans le texte même. Et il nous arrive que ces considérations plutôt formelles nous aident aussi à mieux percevoir le fond, car on ne sépare jamais entre la forme et le fond. D'autre part, nous avons à reconnaître, je crois, qu'on n'impose pas d'avance au Seigneur un seul type de langage pour la révélation qu'il veut faire de lui-même. Nous n'avons pas à décréter que seul le genre historique est digne du Dieu de la Bible. Il est libre de choisir d'autres modes de révélation, plus poétiques, plus littéraires, s'il le veut. Pourquoi poserions-nous des exigences à cet égard, comme à l'avance, comme au préalable? Et je vais jusqu'à dire que la défense de l'historicité des choses racontées par la Bible a pu prendre dans notre façon évangélique de commenter la Bible une place disproportionnée. On a parfois fait le reproche, et il ne semble pas dénué de toute justification, on a parfois fait le reproche aux évangéliques de dire finalement très peu dans leurs commentaires les plus scientifiques en particulier, sur le sens des textes, sur leur rapport théologique, parce qu'ils dépensent toute leur énergie à défendre l'authenticité, à défendre la justesse historique des choses dites. Alors c'était un combat extrêmement pénible, dont les traces d'une culture qui gagne une sous-culture qui nivelle par le bas. Je pense que nous avons à reconnaître que la littérature, par exemple, a un rôle extrêmement important dans le façonnement d'une vision du monde riche, lumineuse. Les Allemands, pour revenir à eux, parle pour l'éducation, la culture de bidouille, et on a souvent remarqué le rapport avec le mot bild, image. L'éducation consiste à fournir des images, des schèmes, des modes de représentation. Finalement, si nous étions jetés comme ça dans le monde, mais nous serions totalement perdus, un flux de sensations dans tous les sens, des choses qui surgissent à droite, à gauche, il nous faut des images, il nous faut des modèles qui nous permettent de nous y retrouver, d'organiser cette masse pour y voir clair, pour que le monde devienne habitable pour nous. Ce jeu de mots, pour ainsi dire, entre Bild et Bildung en allemand, pourrait se retrouver peut-être un peu en français avec forme et formation. Comment recevons-nous une formation en acquérant des formes que nous allons pouvoir mettre en œuvre, organiser, et par lesquelles nous allons pouvoir organiser notre expérience? Donc, il me semble qu'il est bon de mettre ceci en valeur. Pourtant, je crois que la proposition qu'on nous fait, malgré ses attraits, et peut-être à cause même de ses attraits, est un piège. Il est difficile d'ignorer que les filles, dans la succession des générations académiques, du scepticisme de la critique négative, pratiquement toutes les modes nouvelles en théologie, reviennent à des tentatives de retrouver certains éléments de la conception orthodoxe évangélique de la Bible et du christianisme sans revenir à l'orthodoxie, sans revenir aux positions évangéliques. L'effet de la méthode historico-critique avec ses présuppositions habituellement mises en œuvre est tellement destructeur, négatif, qu'à chaque génération, il y a des gens qui disent non, il faut dépasser ça, il faut dépasser ça. Il faut retrouver le sens de l'unité biblique, par exemple. Il faut retrouver le grand mouvement d'espérance qui traverse toute la Bible. Il faut retrouver ce que la méthode historico-critique, dans son usage courant, a perdu. Mais au lieu de se repentir des présupposés de cette méthode, on continue de les admettre et on cherche une façon quand même, tout en les admettant encore, de dépasser. Oui. Dépasser, c'est le mot-clé. Mais en fait, le scepticisme est toujours là. Non, en fait, ça ne s'est pas produit comme ça. En fait, notre raison historique, c'est bien. C'est pas possible, c'est miracle. Non, non, c'est du folklore. Oui, c'est comme ça. Alors on va essayer de leur donner de la valeur quand même. De pouvoir les lire avec joie et méditation, quand même, bien qu'on sache qu'il ne s'agisse de rien d'historique. Voilà la tentative. Mais subsiste ce scepticisme ou ce dogmatisme, comme je dis. Le vrai sceptique dirait, je ne sais pas. En fait, cette orientation théologique négative correspond à un dogme. Nous savons que ça ne peut pas se produire. Donc c'est plutôt du dogmatisme, mais un dogmatisme... hélas, tout à fait négatif. D'autre part, il nous faut observer que si la parole de Dieu se communique par la parabole, au moyen des symboles, par des textes poétiques, un langage indirect, assez souvent, c'est vrai, elle ne s'y réduit pas. Et que sur les points principaux, et à plusieurs reprises, elle pose elle-même l'alternative. Est-ce de l'histoire ? Ou de la fiction composée avec art, des fables habilement arrangées, des histoires bien faites, mais des histoires seulement. Oui. La Bible elle-même pose des problèmes. On n'a pas du tout attendu la théologie narrativiste du XXe siècle pour se préoccuper de la question. Notre frère, M. Dubois, nous a lu le texte si important de la seconde épître de Pierre, au premier chapitre, lors du premier soir. Je viens d'en emprunter des formules. L'apôtre Pierre sait parfaitement que l'on pourrait fabriquer des mythes ou des histoires très jolies, très, très inspirantes. Mais il dit, c'est pas ça. C'est comme témoin oculaire de sa majesté que nous parlons. On l'évite. Certains des anciens savaient les apprécier. Platon, qui avait pourtant quelques méfiances, a utilisé parfois les mythes à titre de magnifique illustration. Mais les hommes du Nouveau Testament disent non, nous présentons non pas de telles histoires, si enrichissantes qu'elles puissent être, mais de l'histoire dont nous avons été témoins oculaires. On pourrait aussi se rapporter au grand prologue de l'évangile de Luc. Les quatre premiers versets de l'évangile de Luc qui définissent le propos de l'évangéliste sont particulièrement significatifs. Vous vous rappelez, je ne vais pas prendre le temps maintenant de relire, mais vous vous rappelez que Luc souligne que ce sont des événements qui se sont accomplis et qu'il a cherché à s'informer de manière exacte pour que l'excellent Théophile connaisse la solidité, l'inhérence des enseignements qu'il a reçus. Le mot qui est employé, asphaleia, dans ce passage, a exactement la même construction, étymologiquement en grec, que notre mot inhérence. Le a est le préfixe privatif, et le radical évoque l'idée d'un faux pas. La Bible, les enseignements reçus par Théophile, ne font pas de faux pas. Inhérence. Mais vous remarquez que Luc s'inquiète beaucoup des événements et de l'information exacte auprès des témoins oculaires des choses qui se sont produites. Et c'est constamment dans le livre des Actes qu'on voit cette question même de la réalité des choses que les apôtres proclament. Cette question est soulevée dans un contexte polémique avec même évocation des preuves. La conception du langage et de la vérité que la théologie narrative implique nous semble en conflit avec la conception biblique. J'ai eu l'occasion d'étudier cette notion de vérité et je signale que M. le professeur Roger Nicole l'a fait aussi récemment dans une partie très, très remarquable d'un ouvrage collectif évangélique de première valeur intitulé « L'écriture de la vérité, Scripture and Truth ». Je crois que je peux affirmer avec fermeté que la notion de correspondance n'est pas le tout de l'idée biblique de vérité, mais qu'elle s'y trouve bien aussi. L'idée de vérité-correspondance est bien là, et la notion du langage n'est pas celle que nous proposent les théologiens de l'école de Ricoeur ou les théologiens narrativistes. Le langage n'est pas simplement un milieu dans lequel on baigne, et qui a toute sa vérité en lui-même, le langage vise au-delà de lui-même. Le langage nous renvoie à la réalité. Sur ce point, je voudrais prendre le temps de vous lire quelques lignes d'un théologien catholique, l'abbé René Laurentin, qui réagit un peu comme nous devons le faire, je crois, face aux mêmes tendances théologiques. Maintenant, du côté catholique, vous avez à peu près la contrepartie de ce qu'on trouve du côté protestant, les mêmes tendances au sein du catholicisme. Il évoque par exemple un exégète qui dit qu'il a fait une belle carrière dans l'Église, qui lui disait, comme ça, en coulisses une fois, ce qu'il y a de gênant dans les récits de la résurrection, c'est le tombeau vide. Et oui, sans tombeau vide, on veut prendre ça pour la poésie, vous voyez. De belles histoires. Mais le tombeau vide, c'est gênant. Alors, Laurentin réagit avec beaucoup de force dans un article remarquable où il souligne qu'à travers les schémas usuels, les images qu'il a dans l'esprit, l'homme vise et atteint le réel. L'évangile raconte des événements et se réfère à leur réalité même. Encore un peu plus loin dans son article, qui a paru dans la nouvelle revue théologique. On nous dit et redit aujourd'hui qu'un texte est surtout une occasion de penser, d'imaginer, de développer nos virtualités intimes. C'est là une inversion du mouvement même de la connaissance qui tend vers l'autre en tant qu'il est autre. Là, je crois, une réaction saine. Et je signale qu'il a une petite remarque en marge aussi assez significative. Laurentin se demande si l'homosexualité croissante aujourd'hui dans notre culture n'est pas pour une part une conséquence de cette inversion. Il ne s'agit plus que de se retrouver soi-même, une identique à soi-même, au lieu de tendre vers l'autre.
nous avons, je crois, à réagir contre ce que je viens d'évoquer dans la proposition qui nous est faite et à discerner les enjeux qui sont majeurs. Certains narrativistes essaient quand même de protéger la résurrection. C'est le cas d'un des pionniers de cette école, qui s'appelle aussi Frey, mais écrit autrement, Hans Frey, F-R-E-I. Lui, il essaye de préserver la réalité objective de la résurrection. Et il a raison, bien sûr. Il sent que si la résurrection n'est qu'une invention géniale d'un autre Homère ou Shakespeare, alors tout est perdu. Nous sommes encore dans nos péchés. Notre foi est vaine. Les apôtres, en fait, sont des menteurs. Nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Il le perçoit. Mais il ne se rend pas compte que si on le dit de la résurrection, alors, dans l'unité biblique, dans le réseau très bien structuré, ça il devrait le voir pourtant, très bien structuré des événements que nous rapporte la Bible, les autres événements sont solidaires de celui de la résurrection. Il y a une correspondance, par exemple, entre la résurrection et la naissance virginale de notre Seigneur, qui à certains égards peut en être comme une prophétie. Vous avez un certain nombre de théologiens qui vous diront oui pour la résurrection, mais non pour la naissance virginale. La naissance virginale, c'est une enjolivure imaginaire. Mais de quel droit? Pourquoi casse-t-on le lien qui est si important dans la Bible elle-même? Les théologies narrativistes sont en bonne partie des théologies du comme-si. Il s'agit de trouver des métaphores, de voir les choses comme si elles s'étaient passées comme ça. Il me semble que nous pourrions résumer peut-être toute l'antithèse, toute l'opposition entre les théologies insatisfaisantes qui perdent la substance même de l'Évangile et puis l'Évangile en disant que d'un côté nous n'avons que du comme si, c'est comme si, c'est comme si, alors que ce que nous proclame la parole de Dieu, c'est le comme ça, c'est comme ça. L'homme ne peut pas faire autre chose que du comme si, il ne peut pas changer sa situation. Il a son expérience, hélas, tellement enténébrée, et il essaye de faire comme si, tous ses efforts reviennent à essayer de disposer son angle de vision de telle sorte qu'il pourra voir les choses un peu moins tristement. Seul Dieu est capable de nous donner du comme ça. Seul Dieu est capable d'intervenir en réalité. La Bible, œuvre littéraire, d'accord, seulement pas d'abord. D'ailleurs, Frey reconnaît que elle est autant de la littérature qu'on peut l'être sans être de la littérature. Il le concède dans une phrase, mais hélas, il n'en tient pas suffisamment compte ailleurs. La Bible, oui, est un chef-d'œuvre littéraire, j'en suis bien d'accord, mais avant cela, elle vaut pour nous, elle se présente même comme Torah, c'est-à-dire directive du Seigneur, instruction, loi, qui nous structure selon la vérité. Comme loi, Torah, et comme évangile, c'est-à-dire proclamation de ce qui s'est passé, proclamation proprement historique. C'est la grande originalité de la proclamation chrétienne parmi toutes les religions. Un grand spécialiste français du gnosticisme parlait de la mort du Christ une fois pour toutes dans l'évangile de la manière suivante. Le déroulement de l'histoire est ainsi commandé et orienté par un fait unique, radicalement singulier. Et par suite, le destin de l'humanité tout entière, et même que la destinée particulière de chacun de nous, se joue eux aussi en une fois pour toutes, dans un temps concret et irremplaçable qui est celui de l'histoire et de la vie. Très bien vu. Et vous voyez le contraste alors avec tout ce qu'on peut trouver dans les chefs-d'œuvre de la littérature, dans tout ce domaine des images formatrices qui nous sont utiles, mais qui ne peuvent nullement se mettre sur le même plan que la proclamation de la bonne nouvelle. Elle vaut pour nous non pas comme littérature d'abord, mais comme parole de Dieu. Et en dernière analyse, je dirais que c'est là ce qui est en jeu. Lorsque l'on s'enferme dans le langage, dans le jeu d'images, enchanteur d'une œuvre littéraire, on ne peut pas reconnaître une parole de Dieu, une communication de quelqu'un qui a réalité et qui veut nous faire entrer dans un dialogue avec lui. On reste dans un cercle charmeur, sans doute, sans atteindre celui qui parle. C'est comme parole de Dieu, parce que nous croyons en un Dieu qui n'est ni éloigné infiniment, mais là, ni muet, ni silencieux, comme le rappelait Francis Schaeffer, parce que nous avons un Dieu réel, souverain, personnel, distinct du monde et pourtant capable de faire de ce monde ce qu'il veut, parce que c'est lui qui le tient dans ses mains. C'est parce que nous avons un tel Dieu que nous affirmons dans la Bible, bien plus que la présence d'une belle œuvre littéraire, que nous y reconnaissons la parole de Dieu. C'est pour ceux du dehors, dit Jésus, que tout se passe en parabole. Il le dit sans doute d'une façon un peu différente que ce que maintenant cette petite phrase peut signifier pour nous, en conclusion de mon exposé, mais quand même, je crois qu'il y a une relation. C'est pour ceux du dehors que tout se passe en parabole. À nous, il est donné de connaître le mystère du royaume des cieux, de connaître celui qui est le mystère du royaume des cieux. À nous, il est donné de voir et d'entendre ces choses que des prophètes et des justes n'ont pas eu le privilège de voir et d'entendre, mais qu'ils ont annoncé d'avance. Alors ne nous laissons pas ravir notre privilège. Amen.